Gab, comment ça va?
Alexandre, comment ça va? Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien, on est quelle date? Ah, on est mardi, waouh, le 24 août. Ça va très bien. Aujourd'hui, les nouvelles, ensuite sujet principal, comme d'habitude, on ne changera pas la recette et la méthode. Donc, il faut que je te parle de quelque chose là, qui me chicote un peu, OK?
Vas-y, Alexandre.
Le Mazda MX-30, est-ce que tu sais c'est quoi?
C'est un genre de VUS coupé urbain électrique Mazda, c'est ça?
Genre. Puis, ce qui m'excitait dans le Mazda MX-30, c'est que Mazda avait annoncé pour l'Amérique du Nord qu'il allait avoir une version hybride branchable avec un moteur rotatif. Là, je trouvais ça capoté. Et la version électrique. Puis là, évidemment, ils ont sorti les tarifs, les prix américains. Puis, ils ont dit, ouais, ben la version hybride branchable va être pour une durée indéterminée, non disponible. Mais c'est un peu comme la Mazda 6 diesel, puis tous les autres modèles qui ont dit que pour une durée indéterminée, il allait être non disponible. Donc, discontinuer. Donc là, il y a seulement la version électrique qui est disponible. Aucun problème, moi je suis très à l'aise avec ça, mais l'autonomie, c'est 160 km.
Exactement.
Ouais.
On parle d'une batterie de 35 kWh
35,5.
dans ce cas-là. Exactement. C'est quand même assez faible. Ça se compare, j'imagine, c'est de l'ordre de quoi? Une Hyundai Ioniq électrique
Même
que...
pas, c'est 220, il y a des Yannick.
Bon, un peu plus, mais quand même moins plus. Mais la batterie, c'est quoi? 38 kWh. C'est sûr que la Hyundai Ioniq est peut-être un peu plus aérodynamique. Ensuite, t'as, c'est quoi? Une mini électrique. Ça va être même un
Oui,
peu plus.
la SE, la mini SE.
Exactement. Donc, c'est vraiment une petite, ben, pas, c'est pas une si petite voiture que ça, mais c'est une voiture urbaine destinée à un public urbain qui veut une petite voiture pour rouler en ville. Ça ressemble à l'autonomie des premières Nissan Leaf, là. Donc, écoute, je pense que les deux, on voit ces chiffres-là, puis on est déçus, mais en même temps, on correspond probablement pas au public cible qui va s'intéresser à cette auto-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ouais, je comprends, mais à la fin, garde le prix, là. C'est 34 000 $ américains de base. Puis tu sais, évidemment que c'est pas change pour change le taux de change. Tu sais, c'est pas un taux de change automatique quand tu vois le prix canadien, là. Mais à 34 000 $ canadiens, c'est cher. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben, en fait, si c'est 34 000, bon, ça veut dire que ça va être un peu plus de 40 000 $ canadiens. Tu vas avoir toutes les subventions, mais c'est quand même plus cher qu'une Bolt. Puis une Bolt EUV, qui est aussi un petit, guillemets, là, VUS urbain, ça a une plus grande autonomie que ça. Beaucoup, beaucoup plus
Ben,
grande que ça. C'est
c'est
deux fois
400 km
ça.
théorique, 375 km facile, les yeux fermés, mettons.
Exactement. Donc, écoute, je pense que clairement, ça s'adresse à un public très urbain, quelqu'un qui réside à Québec ou à Montréal, reste en ville. Avec les subventions, le prix sera pas nécessairement si élevé que ça. Je pense que c'est dans l'ordre de grandeur auquel on peut s'attendre pour ces véhicules-là. Mais c'est quand même assez niché, là, comme public. Je crois que Mazda se tire un peu dans le pied. Je pense qu'ils vont réussir à en vendre, mais ils limitent beaucoup leur base de clients potentiels en ayant une si petite autonomie que ça. Ça aurait été normal de voir ça il y a 7-8 ans, mais aujourd'hui, c'est un peu décevant. En même temps,
Ouais.
c'est un marché pour lequel il y a peu de modèles. Éventuellement, je pense qu'il va en avoir plus. La Honda e, que toi puis moi, on aime énormément.
Ah, en Europe, ça c'est un succès, ça. C'est capoté, là.
Elle est...
C'est comme une renaissance de la Mini, mais faite par Honda, tu sais.
Exactement, elle est tellement belle cette auto-là. Elle a son propre style comme une Mini, comme, je sais pas, une Fiat 500. Elle a défini son propre style dès le premier moment. Je pense que c'est incroyable. Je pense que je crois pas que la MX-30 va avoir le même genre de succès, ou peut-être dans d'autres marchés. Au Québec, je pense que ça va être assez marginal. En fait, ça me surprend un peu que Mazda offre ce modèle-là ici, tout court. J'ai l'impression que ça fait du sens dans le marché européen, puis au Québec, je pense qu'ils vont en vendre un petit peu. Ça va peut-être être leur modèle d'entrée de gamme électrique, mais c'est quand même cher. Je pense qu'on n'en verra pas tant que ça sur les routes.
Non, je pense pas moi non plus. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, Mazda, évidemment, il est au début de sa transition. Est-ce que j'aurais préféré voir mettons, un CX-30 avec 300 km d'autonomie? Ça, j'aurais dit, c'est beau, c'est réglé. J'aurais pas posé de questions. Tu sais, CX-30, c'est la version VUS du Mazda 3. Je sais pas. Mais tu sais, à la fin, je veux dire, est-ce qu'ils sont capables de le produire maintenant? Est-ce qu'ils ont la capacité d'ingénierie de le faire? Ben là, ça, c'est. Ils sont plus avec personne, Mazda, sont tout seuls, là. On your own, comme on dit en anglais, là.
Pendant qu'on en parle, si Mazda avait lancé un CX-5 électrique ou un CX-5 hybride branchable, on se poserait pas aucune question, puis
Ah
on
non,
serait
on aurait dit que c'est merveilleux.
d'accord. Exactement. Je pense que c'est choisir cette voiture-là, c'est un peu curieux. En même temps, un peu comme tous les constructeurs, je crois qu'ils choisissent de débuter avec un modèle qu'ils savent qu'il va être à faible volume. C'est ce qu'ils font.
Ouais, peut-être. Ils testent le marché. Ouais. OK, on passe à autre chose.
Exactement.
Un autre, j'ai vu ça un peu, là, j'ai ramassé ça sur Twitter, mais à la fin, j'ai réussi à chercher une vraie source. Toyota, dans une présentation d'affaires, a fait une étude de l'empreinte carbone de ses véhicules et de la compétition. Et ce qui en ressort, c'est que les véhicules hybrides branchables, donc une petite batterie, tu peux le brancher, mettons 30, 40, 90 km d'autonomie, mettons un RAV4 Prime, a une plus petite empreinte carbone qu'une voiture électrique complète. Ça me surprend pas, mais maintenant, après avoir vu le site, le calcul, ça a fait du sens. En ce moment.
En ce moment,
exactement. Qu'est-ce que t'en penses,
Gab? Puis, bien, je crois que les paramètres qu'ils ont utilisés, c'est une voiture en Californie. Donc, c'est certain qu'au Québec, on vit un peu dans une utopie de licorne où notre électricité est propre à presque 100%. Si vous habitez en ville au Québec, là, c'est de l'électricité propre, là, à moins de vivre là, dans... un nombre très, très, très limité de petits villages très, très, très loin du réseau électrique où on produit de l'électricité de d'autres manières. Donc, on a de l'énergie propre. Puis, c'est peut-être un peu différent le calcul au Québec. Je pense que la Californie, c'est peut-être représentatif d'un mix de, disons, d'énergie fossile puis d'énergie propre pour la production de l'électricité. Puis, ça fait du sens parce qu'une hybride branchable, 90-95% des jours, tu n'utilises pas le moteur à essence, tu n'utilises pas le moteur thermique. Puis, tu utilises seulement la batterie, puis ta batterie est beaucoup plus petite, elle est 4-5 fois plus petite que celle d'un véhicule électrique normal. Donc, il y a beaucoup moins de production de gaz à effet de serre lors de la production de la voiture, ou de gaz à effet de serre équivalent. Donc, en fait, avoir une hybride branchable, puis l'utiliser seulement en mode électrique, c'est probablement la manière, la moins polluante de se déplacer en ce moment.
Absolument.
Ou une toute petite voiture... électrique là, qui a une toute petite batterie. Là. On parlait justement du MX-30 avant. Mais ça ne me surprend pas, en fait, comme calcul. Je pense
non, encore... Pas du tout, moi non plus. Hein. C'est comme... Tu sais, on l'a toujours dit, la Volt, pour moi, c'était comme la voiture idéale. Ils ne font plus, mais... Je veux dire, à la fin, ça fait du sens parce que petite batterie, petit moteur électrique, ça prend pas trop de métaux rares, c'est pas compliqué, mais là, c'est une batterie de 100 kWh. Pour l'instant, c'est... Ça prend beaucoup d'énergie faire ça, puis ça prend, c'est dommageable l'environnement.
Non, je suis d'accord. Puis c'est certain que Toyota essaie de vendre leur agenda. Puis leur agenda en ce moment, c'est de vendre des voitures hybrides, puis un petit nombre d'hybrides branchables. Ils défendent ça. Ils ont quand même un argumentaire là, qui est quand même un peu différent. Le président, je crois que de Toyota Canada disait, bien, moi, au lieu de faire une voiture avec une batterie de 100 kWh, je peux faire 100 hybrides avec une batterie d'un kilowattheure, puis la quantité de gaz à effet de serre que je sauve en mettant 100 véhicules qui font 2 litres de moins aux 100 km sur la route, c'est beaucoup plus significatif que ce que je peux faire avec 100 kWh de batterie dans un véhicule qui ne pollue pas du tout. Donc, tu sais, ils ont vraiment une vision différente. Là.
C'est assez pragmatique comme vision, je te dirais.
Ben, c'est assez pragmatique. C'est aussi excellent pour défendre les choix qu'eux ont fait, évidemment. Toyota, ils ont leur propre agenda, ils font leurs affaires de leur côté. Clairement, ils ne se laissent pas influencer par les autres. Je pense qu'ils ont un argumentaire quand même solide sur le chemin qu'eux choisissent de prendre pour aller dans l'électrification. Puis,
absolument.
Moi, personnellement, je suis quand même d'accord avec leur stratégie, là, à court terme en tout cas.
Ben, regarde, on le sait bien que tu Toyota à tous les jours.
Oui, Alexandre, je conduis un Toyota tous les jours, évidemment. J'ai pas un hybride, mais j'ai un Toyota et je Toyota à tous les jours, ça c'est certain.
Oui. Ensuite, hey, le Maverick, qui est quelque chose, tu sais, je veux dire, ça reste que. Je pense
la
que ça va être le lancement.
Civique. La nouvelle Civic, Alexandre, le Maverick.
La nouvelle. Ah oh, oui, la nouvelle Civic, ok, je t'ai... Où
le Maverick, c'est la nouvelle voiture
oui.
De base.
Parce que, dans le fond, Ford a annoncé qu'aux États-Unis, 100 000 réservations de Maverick. J'ai jamais vu ça. Une voiture pas sortie encore, ça sort dans les prochains mois, là. 100 000 réservations pour une voiture à 25 000 $. Il faut-tu que le monde en veuille? Je suis content, là. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, là. 100 000. C'est énorme.
Pour
c'est
un
pas
modèle,
un Tesla, le Cybertruck, là.
Exactement. C'est pour un modèle qui n'est pas un modèle phare, là, ou une Tesla, ou quelque chose qui arrive dans longtemps, et qui est un peu flou, là. 100 000 précommandes, c'est vraiment beaucoup, là, pour un modèle commun, là, que les gens, normalement, iraient juste acheter chez les concessionnaires. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça montre que Ford, puis Hyundai avec le Santa Cruz, Ils ont choisi un segment, ils ont choisi d'arriver les premiers dans un segment de marché qui va être très, très, très populaire. Puis, généralement, quand tu es premier au marché, first to market en anglais, c'est là que tu as le potentiel de générer beaucoup de ventes puis de revenus quand il n'y a pas beaucoup de compétition. Puis, je pense que Ford, ils ont clairement pris la bonne décision. Je pense que leur véhicule est un petit peu plus intéressant d'un point de vue prix puis positionnement que le Hyundai Santa Cruz, même si les deux, c'est des bonnes autos. Puis, j'ai vraiment hâte d'en essayer un.
Ben oui, absolument. Je te dirais qu'au Canada, tout dépendamment de ce que Hyundai a choisi comme cible de marché, là, le Maverick, à la fin, c'est un véhicule à 25 000 $ PDSF avant taxe. Le Santa Cruz, évidemment, le prix n'est pas encore officiel là, sur le site de Hyundai Canada, mais on s'attend à 38 40 000. Mais c'est un modèle tout équipé. Ça reste que ça va brouiller des cartes pour beaucoup de personnes. Même si équipement pour équipement, le Santa Cruz est moins cher, le prix d'entrée, c'est toujours un mur que tu frappes puis que ça va t'empêcher d'aller voir le produit. Fait que ça reste à voir, mais garde, 100 000 précommandes pour un véhicule d'entrée de gamme, là, c'est impressionnant. Dans le même sujet, là, Ford va doubler la production des Ford F-150 Lightning. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, bravo! » Mais quand j'ai vu les chiffres, j'ai fait « Oh boy! » Dans le fond, en 2022, là, ils vont produire 15 000 unités du Lightning, Canada-États-Unis, 55 000 en 2023, 80 000 en 2024. Ils investissent 850 millions. Bravo! C'est bien! Combien on vend de F-150 en Amérique du Nord?
J'ai été vérifier les chiffres, Alexandre, puis c'est certain que 2020, c'est bon, à cause de la pandémie, tout ça, c'est pas une bonne année contrôle. On va prendre 2019. 2019, c'est toujours la bonne année contrôle. Moi, au travail, je fais toujours 2019 comme année de référence en ce moment. 900 000 F-150 à essence, ou en tout cas thermique, en 2019, ou près de 900 000. Donc, si on met ça en perspective, là, c'est très, très peu. Là. C'est moins de 2% des unités vendues en 2022 qui font être électriques. C'est quoi, disons, 6% en 2023, 8% environ en 2024. Ça reste plutôt marginal, 8-9% de vente. On parle dans 3 années modèles ou dans 3 ans. Moi, je vois ça, puis l'impression que j'ai, c'est que, oui, Ford veut vendre des F-150 électriques, Ford va vendre des F-150 électriques, mais regarde, 100 000 précommandes pour le Maverick, il prévoit pas avoir produit 100 000 F-150 électriques avant la moitié de 2024, puis le F-150, c'est un véhicule beaucoup plus populaire que le Maverick. Là. Ça me surprendrait pas qu'il y ait en fait des précommandes ou s'il rendait les précommandes disponibles là, pour les productions de ces 3 années-là. Donc, oui, je pense que Ford veut faire un F-150 électrique, mais il semble pas vouloir faire de ce véhicule-là le modèle standard, en fait.
Puis ça me surprend, je te dirais, parce que, tu sais, Ford GM, là, surtout dans les constructeurs américains, tu vois qu'ils ont la volonté de faire une transition vers l'électrique, mais ça prouve que l'argent que Ford fait dans une année, c'était les F-150. Puis il ne faut pas réveiller le dragon ou l'éléphant, peu importe. Ça reste un marché extrêmement lucratif, puis je comprends pourquoi, là, puis c'est pas péjoratif ce que je dis. Là. C'est payant à faire des pick-up, qu'est-ce que tu veux
exactement.
Que je te dise?
C'est leur pain puis leur beurre, puis quand vous voyez disons un modèle de base 4 portes, 4x4, ça coûte 40 000 $ puis la version la plus chère coûte 80 000 $ là. Oui, il y a du luxe qui s'ajoute, puis du prestige. Puis
mais il n'y a pas 40 000 qui s'ajoutent.
Les gens sont prêts à payer pour ça, donc il y a un marché pour ça. Effectivement, il n'y a pas 40 000 $ de coûts qui s'ajoutent. C'est extrêmement lucratif de vendre ces modèles-là où la mécanique, la structure, la base est raisonnable en termes de coûts. Puis, on vend du luxe par-dessus ça. Puis, sur les F-150 que Ford va vendre électrique, là, on s'entend, le modèle de base au Canada, c'est 68 000. Puis, il y a probablement beaucoup de ces F-150 électriques-là qui vont se vendre 100 000 $ là. Ford va faire beaucoup d'argent en les vendant. Mais peut-être pas autant que sur les 900 000 F-150 essence qu'ils vendent chaque année. J'ai hâte de voir le Silverado. J'ai hâte de voir les chiffres. Puis, je pense que le premier constructeur qui va être prêt à réellement vendre puis à en produire énormément des F-150 électriques, pas des F-150, mais des camionnettes plein grandeur électriques, ça va être un succès, là, c'est certain.
Ah oui, parce que c'est ça que, tu sais, le marché nord-américain, c'est ça que les gens veulent. Fait qu'à la fin, ça sert à rien de forcer les gens dans une Mitsubishi Mirage, là. Prenez les véhicules que vous utilisez tous les jours, mettez-les électriques, sans compromis, presque sans compromis, puis on verra après, mais c'est la seule solution.
Puis on ne voit pas d'autres solutions. En ce moment, les camionnettes, là, bon, il y a une pénurie de voitures partout, mais spécialement pour les camionnettes. Il y a un concessionnaire GMC Chevrolet près de chez moi. Il n'y en a pas de camionnettes, mais il y en a absolument.
Genre zéro.
Il y a un vieux, il y a un Nissan Titan usagé là, à vendre là, dans la section des voitures usagées, mais il y en a absolument aucune restante. J'ai regardé, il y a un concessionnaire aussi, GM, bon, j'ai peut-être vendu, là, tu peux me dire, mais j'ai voulu regarder leur inventaire l'autre jour. Il y avait uniquement deux modèles en stock. C'était un Colorado ZR2, donc quand même c'est la version la plus dispendieuse du Colorado, là, qui est très hors-route. Puis il y avait un Canyon AT4, là, qui est aussi une version hors-route du Canyon, là, mais il n'y avait aucune camionnette planiradeur. Il y avait zéro en inventaire. C'est extrêmement lucratif. Il y a immensément de demandes. Puis je pense qu'ils ne vont pas laisser tomber ce marché-là à court terme.
Absolument. En tout cas, on verra bien comment que ça va, là, mais tu sais, comme tu dis, là, en fin de semaine, là, à Robertval, tu t'en souviens, on était ensemble, t'es à la pêche, là. Concernant Ford, là, il y avait quoi dans le cours? Il y avait un Bronco Sport, un Edge usagé, puis c'était pas mal ça, là. Il y avait rien. C'était vide.
Ah, c'était pas fascinant. 150, on est passé, encore une fois, devant un concessionnaire GM, il y avait quoi? Il y avait une camionnette commerciale, puis genre un...
Le reste, c'était usagé. Il y avait une Bolt 2017 qui traînait, genre. Exactement. Je ne sais même pas si Bolt, il faisait une Bolt en 2017.
Ben, en fait, je pense que ce qu'on voit, c'est que les concessionnaires dans le neuf, en ce moment, essaient de miser le plus.
Ils vendent de l'usager.
Parce que s'ils ne vendent pas d'usager, ils ne vendent pas d'auto. Parce qu'il y a une pile. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils ne vendent pas d'auto. Ils vendent toutes les voitures auxquelles ils ont accès. Ils aimeraient en vendre plus. Il n'y a pas de disponibilité chez les constructeurs. Donc, ils se tournent un peu plus vers l'usager qu'à l'habitude. Puis, ils ne veulent pas. Les prix des voitures usagées montent, là, donc c'est pas une...
Ouais. Je te dirais que moi, dans mon cas, Volvo m'a pas encore appelé pour me dire « Monsieur Gosselin, on veut revoir votre S60. »
Ah, c'est pas comme moi,
la dépréciation Volvo m'affecte encore, c'est correct, c'est la vie, je comprends, mais ouais, ton père avec son Tacoma, c'est sûr qu'ils veulent... Ils vont y donner l'hypothèque de sa maison en plus du Tacoma, oui. Probablement, pour avoir son Tacoma.
Et quelqu'un que je connais qui a un Tundra, on en a déjà parlé, il me dit que plus d'une fois par mois moyenne, un Tundra 2003, quelqu'un lui demande s'il peut lui vendre son pick-up.
Ah, c'est fascinant. Mais je te yoterai pas pour faire ça. Je suis pas assez pour me convaincre.
Je pense que
malgré que j'ai déjà eu un Camry 2004.
Manuel. Faut passer à notre sujet
principal. Hey, c'était un SE, c'était autre. Oui, sujet principal. Bon, ça, c'est une discussion qu'on a eue avec nos amis autour d'un feu et d'une bière. Là. Quel constructeur ont changé leur vision, image, leur essence, leur esprit dans les dernières années. Ce qui font que nous, mettons public, moi j'ai 29 ans, t'as 29 ans, Gabriel, les gens qui ont grandi dans les années 90, là, l'image d'une marque d'automobile a changé dans les 20 dernières années. Et il y en a beaucoup. Puis je pense que c'est un sujet intéressant qu'on peut débattre aujourd'hui. Là. Donc je te laisse partir. Qui a changé?
Acura.
Hey boy, ah oui, oui.
Voilà, mon oncle, il y avait un Acura Integra 1990 4 portes qu'il adorait. Puis,
ça, c'est un Integra, ça?
Ouais, un Integra 4 portes, c'est fascinant. Il dit que...
Hey, c'est rare, j'ai déjà embarqué là-dedans. Il y avait un moteur H22 là-dedans, c'est une modification. C'était un corbillard.
C'était avant les phares ronds, là. C'est ceux qui étaient carrés. Puis, c'est l'époque des années 90 où Acura, c'est des petites voitures compactes, sport, qui attiraient les jeunes hommes célibataires qui voulaient ces autos-là qui donnaient des sensations de conduite avec des moteurs qui révolutionnaient. Oh, le Acura Integra, c'est un classique, là, un TEG, comme les gens disaient. Mais Acura, ça a changé beaucoup aujourd'hui. C'est vendu une marque de luxe, c'est des voitures premium. Ils ont perdu en grande partie leur côté sportif. C'est certain qu'il y a des modèles qui se veulent sportifs à spec, qui, en fait, bon, sont des appearance package. Ils sont visuellement plus sportifs. Puis, il y a quelques modèles, la nouvelle TL Type S, qui est effectivement plus sportive, plus puissante, avec un V6 biturbo. Mais, en général, ils sont passés d'une marque de voiture sport qui attirait les jeunes hommes à une marque de voiture beaucoup plus, disons, mature qui attire les professionnels, les gens qui veulent des voitures de luxe. Ils ont vraiment changé leur vision. Là. Disons qu'ils sont plus près de Lexus aujourd'hui qu'ils sont du Acura des années 90.
Ah, absolument. Puis, tu regardes là, le RDX, c'est juste un Lexus RX. Là. C'est pas compliqué. Là.
Oui, puis...
C'est plus simple que ça, là.
D'ailleurs, le Acura RDX, c'est toujours une voiture qui m'a intéressé. Là. J'ai aimé comment ils ont passé du 4 cylindres turbo au V6, retour au 4 cylindres turbo. Mais c'est surprenamment, la valeur de revente des véhicules Acura comparée à Lexus là, est beaucoup moindre là, quand même, mais c'est surprenant un peu. Là. Je pense que c'est des produits qui vieillissent moins bien où les gens se lassent plus vite des Acura que des Lexus. Mais bon, ça c'est peut-être caractéristique.
Je suis d'accord avec toi parce que, mettons, fait historique, mais fait véhicule, en fond, mon beau-père a eu une Acura TL 3.2 en 2007. C'était, personnellement, moi j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, là. J'adorais cette voiture-là. C'était bel assemblage, relativement sportif, belle performance, mais ça l'a tellement mal vieilli comme voiture. Mais en 2007, là, c'était dur à battre comme voiture. Genre une BMW à côté de ça, là, c'était comparable, puis c'était pas stressant, là, même cette attraction. Mais aujourd'hui, là, mon Dieu, ça a dépéri beaucoup, les voitures rouillent, moteur, timing belt, je sais pas, manque de pep, la transmission 5 vitesses, peu importe. Fait que oui, Acura, c'est un bon exemple, puis évidemment, j'ai dit BMW après. BMW, pour moi, sans leur manquer de respect, j'ai l'impression que BMW veut faire comme Mercedes. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben en fait, non, développe, parce que je vais te dire ce que je pense de BMW.
Tu comprends pas? Ben regardez, pour moi, le BMW, c'est des voitures propulsion qui sont centrées vers le conducteur. Remontons aux deux dernières générations de la série 3. La série 3 est une voiture exécutive. Les gens achetaient ça. C'est une voiture sport. La plupart des modèles étaient disponibles manuels. C'est sans ligne, aspiration naturelle. C'était le fun à conduire et ça pouvait prendre beaucoup plus d'abus que ce qu'on pensait. Mais aujourd'hui, là, mon beau-père a eu une série 3 2013. Là. Le siège, un Toyota Camry, c'est le même siège. Là, c'est plat, aucun support, aucune option disponible. Le 2 litres turbo, ok, c'est performant, mais peu importe. Là, je veux dire, n'importe quel Lexus IS 250 ou Volvo S60 de base ou Lincoln MKZ, whatever, c'était comme assez genre fade. Mais tu remontes quelques générations d'avant, c'est des voitures qui étaient... Je veux pas dire le mot engaging parce que c'est le mot anglais, mais c'était le fun à conduire. Puis là, aujourd'hui, BMW qui sort la série 2, pas la série 2 coupée, mais la série 2 berline pour compétitionner la Mercedes CLA. Voiture de traction basée sur une plateforme mini. Je suis comme, ok, là, ça marche plus. Là. En Europe, ils vendent une minivan, la série 2 Active Tourer. Ensuite, dans l'autre spec, tu t'en vas dans les X7, qui est un véhicule gros comme un Range Rover, compétitionne les XC90, le Mercedes GLS. Ils sont où, BM, là? Mais ils sont partout en même temps, là.
Je voulais t'entendre parce que l'impression que j'ai, c'est que je pense que je comprends pas où ils sont. Je sais pas s'ils se sont perdus ou si c'est moi qui est pas capable de voir où ils s'en vont. Mais j'ai de la misère à comprendre avec les grilles immenses là, qui ont...
Oh mon Dieu!
Bon, disons que c'est très discutable là, d'un point de vue du goût. Là, j'aime pas spécialement ça. Puis ce qu'il y avait, tu sais, ce qui animait les M3 qui avaient des 6 en ligne aspiration naturelle, puis après ça...
Même celle avec le V8, Gab, c'était toute qu'une voiture. Là. Même oui, si c'était pas fiable, mais c'est une voiture de course! Tu comprends? C'était... Une voiture complexe, trop chère, trop performante, mais tu sais, c'était pas une voiture que t'achetais et que tu ne posais pas de questions. Une M3, c'était compliqué, mais c'était performant.
Exactement. Ça, c'est normal. Puis la série 1M là, 2011.
Oh, wow. T'es comme... Tu te souviens de toi quand on est allé voir?
J'ai... Oh, mon Dieu. Oui, écoute, j'en ai vu une fois sur la route à Istanbul. J'aime toujours ça pour raconter des choses que j'ai vues dans d'autres pays, mais c'est. Les arches de roues en arrière, là, c'est tellement... ils ont tellement pris cette petite voiture-là, puis ils ont donné un look parfait. Puis bon, j'en ai jamais conduit une, évidemment, parce que c'est impossible à trouver. C'est une licorne, en fait, juste une année. Ça vaut aussi cher aujourd'hui que ça valait neuf, sinon beaucoup plus. Je pense que c'était comme le pinacle. Puis après ça, BM, ça s'est pas aseptisé, parce que c'est des voitures... probablement tellement plus rapide que celle qu'il faisait il y a 10 ans.
Oui, puis la qualité a augmenté, là. Puis les moteurs sont plus performants. C'est pas paresse bon. D'ingénierie, là. C'est juste que c'est comme décousu, là. C'est ça que je veux dire.
Ben, c'est
décousu.
Qu'on, ou en tout cas, on n'est pas où ils veulent aller. Là. Peut-être qu'ils veulent, je sais pas, aller chercher un public vieilli, puis ils veulent aller chercher les gens qui achetaient des BMW quand il y avait 30 ans, des années 2000, puis aujourd'hui, ils ont 50 ans, puis... veulent quelque chose de complètement différent de toi et moi. Mais sinon, là, clairement, ça attire pas le... Nous, on fait peut-être partie du public qu'eux, ils auraient essayé d'attirer il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Puis là, ils sont plus là du tout. Là. Ils sont allés complètement ailleurs. Puis effectivement, je pense qu'ils cherchent un peu, puis les modèles traction, là, ça m'échappe complètement. Le prochain.
Mais ensuite, ben Honda.
Honda.
Regarde, je comment je pourrais te dire? J'aime Honda, OK? Pour moi, là, dans la vie, là, si t'as besoin d'une souffleuse, c'est un Honda. Si t'as besoin d'une génératrice, c'est un Honda. Si t'as besoin d'une moto, c'est un Honda. Si t'as besoin d'un 4 roues, c'est un Honda. Mais les autos, oh. Tu sais, à la fin, pour moi, la dernière bonne Honda, ben, en fait, la dernière bonne Honda, c'est la Accord qu'ils vendent actuellement, là. Mais à part de ça, il n'y a rien. Le Ridgeline, peut-être, mais ça me... C'est plus Honda, tu sais. Souviens-toi des Civic, des CRX. Honda, c'était une compagnie qui faisait des moteurs autour d'un véhicule. C'est plus ça aujourd'hui.
Ben, je pense qu'il y a une partie de ça, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je pense que tu vis un peu un effet de récence là, de ta déception totale et intégrale sur la nouvelle Civic.
La Civic 2002, au secours.
Je pense que si tu prends un step back, depuis 2016, Honda, ils ont lancé la Civic 2016, qui était une excellente voiture, le CR-V 2017,
bon.
Qui était une excellente voiture.
Le oui, que ta mère possède, fait que t'es obligé de le dire.
Mais non, si j'avais pas...
Non.
Elle est obligée de l'acheter parce que j'ai décidé d'y acheter son RAV4. Donc,
okay.
C'est un peu de ma faute. Mais le Ridgeline, c'était une bonne voiture.
Le Ridgeline, c'est excellent.
La Odyssey avec la balayeuse, tu te rappelles? Quand on a vu la balayeuse dans le coffre de la Odyssey à Détroit. Puis, je pense que en 2016, 2017, 2018, ils ont lancé plein de bonnes voitures. Il y a le HR-V qui n'ont pas encore renouvelé, que personne ne comprend trop pourquoi. Ils ont perdu la Fit, ça, je trouve ça un peu poche. Là, ça va un peu dans le même sens que ce que tu disais.
Parce que pour moi, Gab, la Fit, c'était une Honda.
Mais là, je pense
c'était économique, mais le moteur virait à 4000 sur l'autoroute. Mais c'était économique pareil. Tu sais, pour moi, ça,
oui,
c'était une Honda.
Puis tu comprends? Le limiteur, t'as plus de 7000 tours, c'est full excitant. Là.
C'est une Honda. Tu sais, c'est une génératrice deux temps. Ça n'a pas rapport. C'est comme une moto en réalité, mais c'est une voiture. Mais, tu comprends? Honda, bref, c'était supposé être bizarre.
Je pense que la gamme que tu. Ben, t'as la Civic. Si tu veux du bizarre, tu peux acheter une Civic type R, Alexandre. Puis avec tous les artifices, ces choses-là. Mais là, je pense qu'il faut essayer de voir. Est-ce que la Civic 2022, ça va-tu être genre une Civic 2012, puis l'année prochaine.
Oh mon Dieu.
Revoir leur offre? Parce que la Civic 2012, c'est extrêmement décevante. Puis après, ils ont fait quelque chose de correct là, en attendant de faire la Civic 2016. Est-ce que ça va-tu être ça? Puis dans le fond, c'est comme un mauvais pas, puis ils vont revenir en arrière, puis corriger ça le tir l'année prochaine? Ou c'est caractéristique de la prochaine série de renouvellement de modèles, puis que ça va se transférer à l'accord, puis au CRV, puis au pilote, puis au Ridgeline? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est du caractéristique de ce qui s'en vient pour le reste des véhicules, ou si c'est juste un faux pas? Moi, je serais prêt à leur
pardonner
si c'est un faux pas. Si c'est là qu'ils veulent s'en aller, je suis pas d'accord.
Je te dirais que deux véhicules qui ont besoin d'un rafraîchissement immédiat, c'est le pilote et le Ridgeline. Leur intérieur, HR-V. L'extérieur, non, mais l'intérieur, là, ouais, leur HR-V aussi. Mais définitivement, ça prend un refresh là, rapidement. Parce que, on va le dire, moi je suis une personne qui est juste, l'intérieur de la nouvelle Civic, superbe. Rien à dire. Superbe. Tu vois le design, c'est frais, c'est simple. Tu mets l'intérieur comme ça dans le pilote, dans le Ridgeline, là. Numéro 1, rien à dire.
Ben ça va sûrement venir, Alexandre. Peu importe où ils choisissent d'aller mécaniquement, ils vont moderniser les intérieurs de ces modèles-là à moyen et court terme, là, ça s'en vient. Mais là, on va parler d'une marque qui a choisi de faire un changement de direction un peu inverse, voici différent, c'est Mazda. Mazda, en fait, ils ont toujours fait des voitures, je pense, qui étaient un peu plus plaisantes à conduire que les autres, là, qui étaient... Et les Mazda 3, ça allait chercher un certain public. Mais depuis quelques années, Mazda a fait un virage. Je pense que ça fait quand même plusieurs années. Là.
Je te dirais, ça fait 10 ans.
Des voitures plus premium, exactement. Ils ont essayé d'offrir des autos qui se démarquaient, puis de faire de Mazda pas une marque de bas de gamme ou d'entrée de gamme, mais une marque qui offre plus de modèles plus haut de gamme, qu'on voit avec le CX-9, entre autres. Qui avait lancé le CX-7, c'était clairement pas un modèle... T'es très de base, très grand public.
Puis prochainement, la Mazda 6 et les CX-5 vont être basés sur une architecture propulsion. Puis ça, c'est confirmé par Mazda. Il va y avoir même un 6 en ligne de disponible. Fait que tu vois, ils font un effort considérable de s'en aller vers le premium. Puis c'est correct. Moi, regarde, j'ai pas de problème à ça. Surtout que la qualité des intérieurs Mazda, l'assemblage, est impressionnant pour le prix que tu payes actuellement. Fait que ça, c'est pas à négliger, là, puis c'est pas des mensonges. Là. Dans un Mazda en 2021, tu as un assemblage qui est digne d'une voiture qui est beaucoup plus chère actuellement.
Mais oui, ça, c'est caractéristique du changement qu'ils décident de prendre. Je pense que le CX-30, le CX-5, c'est les bonnes autos qu'on recommande. Là, peut-être moins
le CX-9, très bon aussi.
CX-9, très bon aussi. Là, c'est un peu bizarre, là, le moteur. Tu peux mettre du 87 d'octane dedans, mais tu as beaucoup moins de puissance. Il faut que tu mettes du 93, bah, 94.
Il te laisse le choix, Gab. Mais moi, tu mets du 91 dedans, puis tu as la puissance affichée, là. Un moteur turbo, si ils te disent mets du 87, tu mets du 86. Mais s'ils te disent t'as le choix, mets le 91. Tu sais, genre par design, l'essence, c'est comme ça que ça fonctionne.
Écoute, même si aujourd'hui, évidemment, j'ai une auto qui prend uniquement de l'ordinaire, ma voiture précédente prenait uniquement du super. Puis la seule fois qu'il y a eu de l'ordinaire dedans, c'est le premier réservoir d'essence qu'il fallait que j'écoule l'essence que le concessionnaire avait mis dedans. T'sais.
C'est ça. Si le constructeur dit de le mettre, tu le mets, puis c'est tout, tu te poses pas de questions.
Exactement. Puis si vous voulez pas mettre de l'essence super dans votre voiture, ben, on vous suggère de choisir une voiture qui requiert pas d'essence super.
Exactement.
Nissan et Infiniti, eux, ils ont été dans le sens opposé à Mazda, je pense.
Je sais pas si ça les a servis, puis je te dirais surtout Infiniti, qui était un beau projet. Il y a eu la mode des Infiniti, là, je te dirais,
de
2000 à 2010. Là, la G35, c'était un bon produit. G37 avec le moteur qui virait 7500 tours minute. Numéro 1, mais quand la Q50 est arrivée, là, qu'est-ce qui se passe? Le Q50 avec le moteur à compression variable, OK. Le QX30 avec Mercedes, le GLA, qui ont arrêté de faire, tu le sais pas. Là, comme moi, je m'assis dans cette voiture-là, j'avais un collègue qui avait ça, là. Je suis comme... OK, ça, c'est des morceaux Mercedes, c'est des morceaux Nissan. Ah, ça, c'est un morceau Mercedes. Puis là, je suis comme tout mêlé, là. Tous mes repères sont perdus parce que là, je suis comme dans une voiture japonaise et allemande en même temps. Je suis tout perdu. Puis je me dis, pourtant, Nissan, c'est une compagnie japonaise pragmatique. Mais là, genre, ils se sont associés avec Renault. Mitsubishi, ils ont acheté. Puis là, ils ont comme divagué, là. Ils sont allés trop loin. Il faut faire des voitures pour tout le monde à tous les prix. Puis ils ont perdu l'essence d'une compagnie japonaise qui fait des voitures pour faire des voitures, tu sais.
Ben, en quelque sorte, Nissan a choisi d'aller vers des modèles plus d'entrée de gamme. Ils sont un peu devenus le nouveau Hyundai, en quelque sorte. Hyundai
ouais, un peu
gradué. Nissan a un peu pris la place de Hyundai, puis offre encore des modèles, c'est ça, d'entrée de gamme, moins cher. Puis tu achètes un Rogue, mais c'est moins cher probablement qu'un RAV4. Puis c'est pas que t'en as pas moins pour ton argent, c'est absolument pas ça. Il offre des modèles qui sont généralement moins chers. Infiniti aussi va être moins cher que ses compétiteurs, mais t'en as aussi peut-être un peu moins. Fait qu'au final, c'est pas une mauvaise proposition de valeur. C'est juste que Nissan a choisi peut-être de prendre la place des constructeurs qui ont décidé d'offrir des produits plus haut de gamme. Ben, Nissan est allé chercher l'espace qu'ils ont laissé derrière.
Puis là, après ça, tu sais, ça les a affectés dans les années. Là, tu vois qu'ils font un effort. Là, tu sais, le Pathfinder a été renouvelé. Meilleur design, meilleur. Mais ça va prendre plus que ça, tu sais. Mais tu vois qu'ils ont comme... Ils essayent de revenir, là. Mais là, tu sais, à la fin, c'est un cycle qui prend 5 ans, selon moi, là. Tu sais, une génération de voitures, c'est 5 ans. Fait que ça va être à voir. Ben, sans frontières, s'en vient. Est-ce que ça va être une...
frontières, ça va être intéressant. Faut voir les prix, parce qu'ils sont pas encore disponibles, mais... Si le Frontier est moins cher, historiquement, il est moins cher que les compétiteurs. Si c'est moins cher qu'un Tacoma, je pense qu'ils vont en vendre beaucoup. Honnêtement, j'aurais aucune réticence à acheter un Frontier. Si quelqu'un me disait, disons, je préfère Nissan, je ne veux pas payer pour un Toyota parce que les prix des Tacoma ont énormément monté parce qu'ils ont une valeur de revente immense. Fait que Toyota a juste décidé de vendre les neufs plus chers. Je pense que tu peux t'acheter un Frontier puis l'avoir pendant 15 ans.
Ah, je suis d'accord. Puis, tu sais, aussi Nissan là, avec l'électrique, ça a été le premier électrique avec la Leaf au Québec, ça a été très populaire. La Nissan Ariya qui s'en vient, qui est comme, dites-vous, c'est comme un Murano électrique, là, posez-vous pas de questions. Là. Ça s'en vient, là, ça sort en Europe prochainement. Ça s'en vient en Amérique du Nord, au Canada. Fait. Est-ce qu'ils vont avoir la même force, puis la même poussée dans le marché, la même disponibilité que la Leaf avait quand elle est sortie? Ça reste à voir. Si Nissan utilise les trucs qu'ils ont appris avec la Leaf, probablement, ça va être un succès, là, ce VUS électrique-là, avec une autonomie de genre 400 km. Fait que ça va être à voir, mais ça s'en vient cette année. Ensuite, Gab, nos amis, Chrysler, Chrysler, Dodge, Ram, tout ça, whatever. Stellantis, Chrysler et Dodge. C'est beaucoup de marques, là, parce
L4,
que c'est.
V8, L4.
Il y en a combien de marques, là? Il y en a combien, eux autres?
Mais ils ont Chrysler, ils ont Dodge, ils ont Fiat. Alfa
Alfa
Romeo,
Romeo,
RAM.
RAM, SRT.
Mais SRT, ça n'existe plus. Ça a existé. À un moment donné, on
Ah,
parle
ok,
des
ça n'existe plus.
roues SRT. T'es la SRT Viper. C'est pas une Dodge, c'est une
Oui.
SRT.
Puis en Europe, il faut le dire, c'est Peugeot, Citroën, Opel. Fait que moi, je nous, c'est comme ça va loin, là. Il y en a des
Lancia.
affaires, là. Lancia, merci, oui.
Donc,
Fait que
et... Ben, en
c'est ça.
fait, ce qu'on, je pense que ce qu'on voit, là, puis c'est quand Chrysler s'était associé à Mercedes, on a vu un bon nombre de voitures émerger en Amérique du Nord sous ces marques-là qui étaient en fait, qui utilisaient les plateformes de Mercedes, là. On hérite encore de ça, la Charger, la Challenger, qui sont des, c'est quoi, c'est des, essentiellement Mercedes Classe
C'est
E, des
des W200, 211, donc c'est la génération 2003-2009. Si je me trompe, on pourrait me reprendre,
le
mais autour de
Grand
ces années.
Cherokee qui était un ML. Puis ben là,
Oui,
on
même
voit la
génération.
même chose. Le Ram ProMaster, c'est l'équivalent quoi d'un véhicule Fiat ou
Fiat,
Iveco.
oui.
Exactement, quelque chose comme ça. Le ProMaster City aussi, ça doit être un véhicule Fiat. Donc, je pense qu'ils font leurs petites affaires. D'un côté, ils mettent des gros V8 dans leur modèle à eux historiques. Puis d'un autre côté, ils importent ces modèles-là européens sous leur marque. Et clairement, il y a quelque chose qui fonctionne là-dedans. Le T des Ram ProMaster, il y en a beaucoup, là. Il doit avoir une proposition de valeur qui fait. Ça doit faire du sens pour les gens qui achètent ça. Puis bon, des V8, là, L4. D'ailleurs, je pensais à ça l'autre jour. Il y a un modèle de véhicule que je m'attendrais à voir chez Chrysler que je vois pas. Puis c'est un Dodge Ram avec le 6.4. Le Dodge Ram 1500 6.4, ça
C'est pas le
existe pas.
TRX?
Non, TRX, c'est le 6.2 Supercharge
Ah,
DL4.
juste 6,2.
Mais
Calvaire, qu'est-ce qu'on va faire?
le 6.4 litres avec 75 chevaux n'existe pas encore. Mais en même temps, on voit Chrysler qui lance des modèles 4XE chez Jeep. On a oublié de parler de
Ah oui, le
Jeep.
Wrangler qui consomme
Le
plus que le
Wrangler.
Wrangler.
Oui, mais pendant une trentaine de kilomètres, qui est électrique. Puis on va voir un Grand
Ah
Cherokee.
oui.
C'est
Ah,
sûr.
Grand Cherokee 4XE, je trouve que c'est une bonne idée par contre, moi. Parce qu'il n'y a
Mais.
pas de full-size plug-in. Il n'y en a pas. À part le XC90 puis le Land Rover Defender.
Mais c'est une bonne idée, puis ils vont vendre. Hein. Je veux dire, je pense que le Grand Cherokee, c'est le meilleur produit de toute façon de toute la gamme de
Oui,
Stellantis.
absolument. Ben oui. Stellantis, leurs deux meilleurs produits en Amérique du Nord, c'est Dodge Ram, la déclinaison de la marque, et le Grand Cherokee. Entièrement d'accord avec toi.
Bon, écoute, puis t'achèterais-tu un coup de diesel? Ça, c'est une bonne question que je me pose.
Ah, je sais pas.
Économie d'essence incroyable, fiabilité.
On le sait pas. Non, j'achèterais de quoi fait par General Motors dans le diesel.
Peut-être.
Ben, peut-être non. J'achèterais de quoi allemand, mais avoir le choix entre de l'américain et de l'américain, j'achèterais du GM dans le
Achèterais-tu
diesel.
un diesel aujourd'hui? Il y a 2-3 ans, là, je pense que j'y aurais
Hein?
pensé.
Si j'achèterais un diesel aujourd'hui, j'achèterais une classe E 250 BlueTEC avec le 2.1 qui mettait dans la S-Class en Europe. Mais ça, c'est moi qui est bizarre. Ça sera une 2016. Mais une voiture neuve, diesel, non. Pas du tout.
Ben, c'est ça exactement parce que je
J'achèterai une
pense
voiture électrique.
que l'avenir n'est pas au diesel. Et dans le fond, il y a 2-3 ans, GM lançait des. Bon, tout le monde, là, Ford et GM, ont lancé des modèles de pick-up 1500 diesel pour compétitionner le Ram éco-diesel. Mais finalement, je suis pas convaincu que c'est ça qu'ils ont envie de vendre puis que c'est ça que le public veut nécessairement. Là, je pense que le marché s'en va ailleurs. Là. Avec le F-150 hybride, là, qui est probablement la meilleure motorisation que tu peux choisir dans les F-150, là, puis les modèles électriques qui s'en viennent, je pense qu'on s'en va ailleurs. Je pense que, d'après moi, là, d'ici quelques années, là, puis ça va être assez court, là, à part d'un véhicule commercial, je pense qu'on verra plus du tout de diesel, très rapidement.
Non, je suis bien d'accord avec toi. Et pour finir, mon spécial, Volkswagen. Qu'une marque que j'adore. Puis là, on va parler de Volkswagen, la marque, et pas du groupe Volkswagen qui englobe Audi, Porsche, Skoda, toutes ces affaires-là, Seat, whatever, Lamborghini, là, Bugatti. On parle de Volkswagen en Amérique du Nord. Honnêtement, moi, dans les 10 dernières années, j'ai vu un décontentement puis une diminution de l'offre chez Volkswagen. Il y a plus de modèles à vendre. Mais l'offre en termes de qualité a diminué. Ça les a servis, leurs ventes augmentent, ils sont de plus en plus populaires en part de marché. Donc, ça n'était pas un mauvais move. Mais pour moi, Volkswagen est une marque allemande, des voitures de meilleure qualité, des voitures avec des options plus poussées, meilleure performance. Mais maintenant, selon moi, un Volkswagen, un Toyota, un Ford, c'est du pareil au même. Un Hyundai. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense qu'il faut regarder aussi un peu plus en arrière. T'es Volkswagen, c'est la voiture du peuple. T'es, c'est la compagnie qui vendait la Coccinelle, la Beetle. Donc, je pense qu'ils ont commencé avec des véhicules très dans tête de gamme, démocratisé automobile, la Golf. Ensuite, ils ont transitionné quelque part dans les années 2000 vers une marque plus haut de gamme. Ils voulaient offrir pas sous Audi, mais vraiment sous Volkswagen des modèles plus haut de gamme. Puis on a vu ça. Puis là, on a un retour. Là, t'es peut-être depuis, disons, la Jetta 2012. Un
oui, peu t'as plus. Raison, la MK6. Absolument. Puis le MK7 Golf, qui était comme le sweet spot, là, c'est un mauvais mot anglais, là, mais le sweet spot de premium puis abordable. Mais tu sais, toi, tu vois le Atlas, le Tiguan, le Taos, la Jetta. Et c'est comme genre la Passat qui est faite avec l'architecture faite en Chine, avec l'architecture chinoise là, qui fait genre 140 modèles en Chine. Tu sais, c'est pas ce que Volkswagen était, mais je comprends que c'est vendeur parce mais que c'est,
moi, je pense
les Volkswagen
que c'est,
sont abordables. Ils sont abordables.
Je pense que c'est une excellente décision. Je pense que, regarde le
oui, ils font de l'argent. Ils font de l'argent.
Touareg. Je veux dire, j'adore le Touareg. Je veux un Touareg, mais j'aurai pas de Touareg. Mais l'Atlas, ils vont vendre des pelletés de
plus. Vendent. Gab, j'ai dormi dans un Atlas, deux personnes, les Sleeping Mag. Mon ami William que tu connais, 6 pieds, il est plus que 6 pieds de grandeur, là, puis ça dormait dans le dans l'Atlas avec de la place.
Exactement.
Là.
Je crois qu'en ce moment, c'est énorme, avec le Atlas, le Tiguan, puis le Taos, je pense qu'ils ont une offre là.
Ben le ID4
très,
aussi,
très,
tu l'oublies.
Très intéressante. Puis le ID4 qui s'en vient, t'es dans les VUS là, qui sont, on s'entend, là, les voitures que les gens achètent. Là. Ils ont de quoi de très très intéressant. La Jetta, le modèle de base, est vraiment pas cher. C'est un des rares véhicules très intéressant.
La Golf n'est plus en vente malheureusement, mais dans le fond, la GTI et la R vont juste prendre la relève comme voiture, comme ce qui reste
Golf,
de Volkswagen original.
Le Golf R qui est comme la seule voiture de cette catégorie-là que tu peux acheter pour vrai. Bon, la Focus RS n'existe plus, mais tu pouvais pas vraiment en acheter une.
WRX, ils veulent pas te le faire essayer.
Et ben, bon, et puis ça, là, on s'entend, on dit ça, mais moi, j'ai parlé à des gens qui possèdent des. J'ai un collègue possède une WRX, il l'a acheté, puis ils l'ont pas. Le concessionnaire a pas voulu qu'il essaye le véhicule avant de l'acheter. C'est littéralement ça, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de Golf R, puis peut-être qu'il y a des concessionnaires qui sont spécialement passionnés, puis qui se sont spécialisés là-dedans, puis qui ont décidé d'en vendre beaucoup, là. Je sais que. Je connais quelqu'un qui travaille dans un bâtiment, puis il loue une partie de leur stationnement souterrain au concessionnaire Volkswagen à côté pour qu'il entrepose ses Golf R au chaud pour les clients et qu'ils veulent pouvoir les essayer, puis ces choses-là, puis ils veulent qu'ils
c'est
restent
propres
et tout.
Parce que...
C'est correct
que
Volkswagen, ils ont une offre très, très, très solide en ce moment, y compris dans les voitures sport, ce que peu de constructeurs se sont engagés à faire, disons.
Puis le Golf R, là, on s'entend, là, c'est pour le Québec une voiture extrêmement performante et polyvalente. Tu sais, c'est.
Oui.
Puis c'est pas si cher pour ce que t'as. Je te dirais la version MK7, là. Je te dis pas la MK8 qui s'en vient, que le prix augmente, mais pour vrai, là, pour l'avoir conduit, là, pas mal longtemps, mais l'avoir fait prêter plusieurs fois, là, je veux dire, c'est dur à battre, le Golf, là.
Oui.
Le Golf R, c'est très dur à battre.
J'ai fait un tour de Golf R à un moment donné, puis la personne qui conduisait a fait un peu de drift sur de la glace. Puis j'ai compris qu'il y avait une différence ce jour-là entre faire de la drift sur la glace avec un VUS. Faire de la drift sur la glace avec un véhicule qui a 300 chevaux comme un Golf R, c'est pas
exactement.
Du tout la même expérience. C'est vraiment un bon produit. Puis c'est sûr que là, bon, le marché de l'usager est un peu fou, là, mais si vous pouvez mettre la main sur un Golf R, c'est ce genre de choses qui vous intéresse, ça vaut la peine.
Ouais, puis la mécanique n'est pas trop capricieuse, je vous dirais. Le 2 litres que Volkswagen fait depuis plusieurs années, c'est une révision à tous les ans. Là, c'est pas... Puis le système 4x4, là, c'est assez standard dans toute l'industrie. Là, c'est Aldex qui le fait. Il n'y a pas de problème là-dedans. Là.
Non, c'est des bonnes voitures. Moi, je comprends que t'es un peu déçu de où Volkswagen est allé, mais moi, je suis d'accord avec leur décision. Puis en fait,
moi, j'étais un gars qui aimait la Volkswagen Phaeton, tu comprends? C'était pas fiable.
Mais
il reste la
Arteon. Mais c'est pas la même chose.
Non, il est discontinué l'année prochaine.
Ok. Oui, je sais, mais aujourd'hui, c'est un des derniers reliques, là, disons, de l'offre premium de Volkswagen qui reste.
De la Volkswagenerie.
Exactement.
Ah, c'est merveilleux. Mais tout ça, sur ce, Gab, super intéressant de t'avoir entendu là-dessus. Je pense qu'on va continuer ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en penses?
Des belles choses qui s'en viennent, d'ailleurs.
Absolument.
Mais ça s'en vient.
Ouais, des belles choses qui s'en viennent. Merci, Gab.
Ben,